Quand vos reporters tendent
l'oreille au cœur
du Valois-Mulcien, c'est
l'oreille dans le coin.
Auditrice, auditeur.
Alors pour RVM.
Bonjour, c'est Yann.
Bonjour, Frédéric.
Voilà, c'est Hervé.
Alors qu'est-ce qui se passe ?
C'est
l'oreille dans le coin.
Je suis au festival Parole, qui est organisé aujourd'hui à Tracy-le-Mont. Je suis en compagnie d'une conteuse qui s'appelle Daisy Bolter, et également une violoncelliste et un guitariste qui ne doit pas être loin, mais on verra bien s'il pointe son nez. Quel est votre nom, madame la violoncelliste ?
Aurélie Groisil.
Merci Aurélie. Vous venez d'où, déjà, tous les trois ?
De la région parisienne.
Vous avez été choisie pour ce conte en particulier, donc dans le cadre du Festival Parole.
Mm-hmm.
Qu'est-ce qui raconte ce conte, hein, ce petit Mabot ?
Mabot, bah, c'est l'histoire de Mabot, justement. Mabot, qui est un enfant qui a une langue maternelle autre que le français.
Le sindar.
Le sindar, c'est ça. Et qui parle cette langue comme il parle le français. Et qui, un beau jour, perd son sindar. Se retrouve incapable de répondre à ses grands-parents qui l'appellent pour lui souhaiter un bon anniversaire en sindar. Et voilà, et en fait, c'est Perdu ma langue, c'est l'histoire du parcours de Mabot dans une ville où il a des amis, des voisins qui viennent de plusieurs pays, qui parlent plusieurs langues, qui ont toutes sortes d'accents. Et au milieu de, voilà, au milieu de cet entourage, il va vivre des aventures avec la recherche de cette langue et aussi la recherche de ce que ça lui fait de perdre cette langue.
Pourquoi l'a-t-il perdue, selon vous ?
Oh, ça, faudrait lui demander.
Faudrait lui demander. Par timidité, peut-être, tout simplement ?
Il y a toutes sortes de raisons possibles. Justement, je ne m'aventure pas dans le texte
à donner des hypothèses.
C'est
une question qu'on nous pose rarement, ça.
C'est vrai.
Pourquoi,
c'est très rare.
Pourquoi il a perdu
sa langue ?
Ouais.
Ouais. C'est un point de départ. C'est le point de départ de l'histoire. Donc, on découvre Mabot à ce moment-là, précis, où il perd sa langue.
Et il a la chance de rencontrer la petite Ainara qui, elle, parle le sindar. Et du coup, ça va lui redonner goût un petit peu pour cette langue, si j'ai bien entendu le conte.
Alors, ça peut être ça.
Moi,
peut
c'est
être
un
ça.
Petit peu ce que
c'est
j'ai ça, compris c'est...
Oui,
dans le conte. Mais bon, il vient d'où ce conte ? Il est déjà existant ou il est imaginaire ?
En fait, c'est un livre, c'est un album jeunesse qui est sorti au mois de septembre dernier chez Didier Jeunesse, qui s'appelle Perdu ma langue. Mais ce spectacle qu'on vient de jouer préexiste au texte édité. Et il est légèrement...
Ah bon, oui. Donc vous aviez découvert le texte...
On ne l'a pas découvert, je l'ai écrit.
Ah, c'est vous qui l'avez écrit. Bah voilà, non mais moi ça je ne sais pas.
D'accord. Donc... voilà, donc je l'ai écrit. Oui. En fait, ça fait un moment qu'on joue ce concert narratif et on a travaillé sur le spectacle à la fois sur le plan du texte, sur le plan de la musique et sur le plan de la création sonore puisqu'il y a une bande-son non musicale aussi dans le spectacle. J'ai écrit le texte, c'était un thème sur lequel je voulais travailler depuis très longtemps. On a coécrit la musique avec Paul Abirachet, ici présent. Paul a écrit certains des morceaux, certaines des mélodies, j'en ai écrit d'autres. Et puis, la bande-son a été créée par Delphine Chambol. Et voilà. Et donc après, on a travaillé sur les arrangements, les articulations entre le texte et la musique ensemble.
Et comment ça se passe justement, ces articulations, vous, en tant que musicien, tous les deux, là ? Et par rapport au texte, comment vous vous mettez d'accord, en fait ? Parce que c'est pas évident, quand même, je trouve. Hein. C'est une vraie composition.
C'est un travail à long terme, en fait. C'est des heures de répétition.
Qu'est-ce qui colle, qu'est-ce qui ne colle pas.
Voilà, et puis après, c'est à force de jouer que petit à petit on.
C'est écouter, voilà. C'est surtout beaucoup écouter le texte, et après, c'est une interaction à trouver en direct quand on joue comme ça le spectacle. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on est tiré justement à faire, mais en direct. Il y a une trame qui est écrite, mais forcément, selon le débit du texte, selon l'humeur du jour, on est par moments aussi un petit peu obligé de. Réajuster, c'est un accompagnement en fait, tout simplement. Quoi.
Vous avez l'habitude d'accompagner des contes, hein, tous les deux ? Est-ce que vous jouez par ailleurs, dans des orchestres, enfin je ne sais pas.
Dans des orchestres, oui, après, enfin, je
ou
pense
tout
qu'on
seul,
a chacun
ou...
des projets, mais moi j'ai beaucoup travaillé sur le texte, oui. Enfin, j'ai déjà accompagné d'autres personnes qui comptaient ou qui travaillaient sur du chant lié à un texte. Et puis ça fait quand même une bonne dizaine d'années que je travaille beaucoup avec des chanteurs et des chanteuses.
Par choix.
Ça s'est pas forcément, ça s'est un peu imposé comme ça. Enfin, je me suis pas dit tiens, je veux faire.
Ah ouais.
Je veux surtout accompagner, mais accompagner c'est passionnant déjà. Et puis quand on travaille avec beaucoup de chanteurs différents. Il faut se faire forcément à la personnalité de chacun, et puis encore une fois au débit de chacun aussi. C'est ça qui est intéressant, et encore plus quand c'est une histoire qui est contée, et quand il y a du conte, enfin quand il y a de la parole, et puis quand il y a aussi du chant, là c'est encore autre chose, quoi.
Oui, parce qu'il y a beaucoup de chants dans ce spectacle, donc je suppose que vous avez beaucoup travaillé le chant dans votre vie également.
Je suis chanteuse.
Ouais, vous êtes chanteuse au départ.
En fait, moi je suis comédienne de formation au tout départ, et puis chanteuse. Voilà. Donc j'écris du texte, je compose. Voilà, on a aussi travaillé avec Paul sur un projet musical sans texte, enfin avec des textes des chansons, mais sans texte dit. Moi, dans mon travail, le lien entre la voix parlée et la voix chantée est très important.
Et le conte est venu comment dans votre vie, du coup ?
Alors, le conte, c'est marrant que vous disiez... Moi, je ne me dis pas conteuse, en fait.
C'est présenté comme ça aussi, c'est pour ça.
Oui. Alors, ce n'est pas de mon fait, hein, mais...
Pour attirer les enfants.
Voilà. Alors, si c'est ça, conter, j'ai plein d'images qui me viennent.
Oui, pour moi, c'est raconter des histoires.
D'accord,
conter.
Non, mais bon. Et je pense que pour moi, il y a un lien à la tradition, ou je ne sais pas, mais peut-être pas. Mais en tout cas, raconter des histoires, ça, c'est fondamental pour moi.
Quel est votre rapport à la langue, tous les trois ? À deux langues, à trois langues ?
Moi, je trouve ça toujours épatant. Je travaille dans un conservatoire où je vois des élèves qui viennent d'un peu partout, qui parlent plein de langues. Et je trouve ça toujours épatant de les entendre parler une langue, passer à l'autre, voilà, avec beaucoup de facilité. Quand ils la défendent vraiment, je trouve ça aussi toujours délicat pour certains élèves. Ils ont du mal à parler une autre langue devant d'autres personnes que leurs parents. Et voilà, donc c'est un travail. Ouais, voilà, des fois, c'est un travail à faire aussi, de savoir pourquoi ils ne veulent pas se dévoiler. Est-ce que c'est... ils veulent garder ça pour eux, ils veulent... pas le partager, d'autres au contraire le partagent facilement et ça en fait même pour eux une force. Donc voilà, moi ça m'impressionne toujours parce que moi je parle pas plusieurs langues, donc j'aime bien les entendre voilà, parler de leur langue, parler de,
c'est un
de,
rapport
de leur
à
rapport
à culture, voilà. Aussi, surtout.
Oui, tout enfin, à fait.
Pas surtout, mais entre autres. Et vous deux, donc du coup, votre rapport à la langue ou aux langues ? Ou à votre propre langue, d'ailleurs, parce que c'est intéressant aussi.
Ouais. Pour moi, ça touche aux racines, parce que j'ai un père qui est d'origine libanaise. Et je pense que c'est des questions très personnelles et très, très sensibles. Lui, par exemple, il ne nous a absolument pas transmis sa langue maternelle. Donc, je ne parle pas arabe.
Vous n'avez pas essayé de l'apprendre non plus ?
Non, je ne l'ai pas appris non plus. Ouais. Mais c'est vrai que c'est intéressant de voir comment on se positionne. Donc, pour lui, qui est arrivé... en France dans les années 50, quelque chose comme ça. Ouais. Donc lui, il a complètement occulté finalement la partie libanaise et la langue arabe. Il n'a pas pour autant perdu.
Mais qu'il ne parle plus, en fait, ou très rarement.
Ouais. Et il n'a absolument pas transmis ça à ses enfants. Donc c'est vrai que ça touche à des choses extrêmement personnelles
sensible,
et sensibles.
Et vous en avez déjà parlé avec lui. Enfin bon, là, en rentrant dans quelque chose de personnel, en effet. Mais c'est intéressant, pourquoi il ne vous l'a pas transmise, en fait, cette langue ? Est-ce que ça a été un manque de votre côté ou pas ?
Pour lui, c'était surtout une... comment dire ? Il fallait qu'il s'intègre entièrement dans la...
Il y a eu rupture,
en fait. Dans la vie française et dans la société française. Et pour lui, ça passait par là. Alors après, il avait aussi une culture très francophone. Parce que le Liban était très francophone à cette époque. Donc du coup, ça passe aussi par là. Mais je pense que... Enfin, c'était très personnel. Il y a des gens qui décident de rompre complètement avec leur langue maternelle.
D'autres, c'est pas rien.
D'autres, non, c'est pas rien. Ouais. D'autres qui, au contraire, la vivent dans leur foyer, d'autres qui la vivent au-delà de leur foyer. Je pense que c'est très...
au cas par cas.
C'est un peu au cas par cas, j'imagine. Après, toi, Daisy, t'as aussi une...
Moi, Daisy, je vous ai entendu parler russe, sindar, français, anglais. Enfin bon, donc polyglotte, quoi, très clairement.
Alors, polyglotte, je parle un peu de... pas mal de langues, mais moi, le fait d'être bilingue, c'est quelque chose qui est vraiment central dans ma vie, parce que ma langue maternelle à moi, elle est autre. c'est l'anglais. Et ça, ça a toujours été très important pour moi, de pouvoir justement, ça, c'est très lié au chant. Écrire en anglais, lire en anglais, créer en anglais, c'est très important pour moi.
On parlait anglais chez toi quand tu étais
ah, oui.
jeune, ouais.
Ah,
tes
oui,
parents
oui.
parlaient anglais.
Mes parents sont ouais. tous les deux anglophones, et des États-Unis et d'Angleterre, donc moi j'ai parlé anglais. Donc c'est très important, et pour moi c'était vital de parler cette langue, de pouvoir la parler, d'être quelqu'un de bilingue. C'est, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas à quel moment j'ai décidé que c'était important, ou on a décidé pour moi aussi peut-être que c'était important. Et donc c'est une grande richesse dans ma vie qui m'a permis de dialoguer, de voyager, de travailler avec des gens de plein de cultures différentes. Et j'aime beaucoup apprendre d'autres langues. Maintenant, je suis dans un moment où je suis en train d'essayer d'aller un peu plus loin dans un apprentissage de quelques mots. C'est facile pour moi d'apprendre quelques mots dans une langue et de me débrouiller vite. Donc là, maintenant, je suis dans la démarche d'approfondir, d'essayer d'aller plus loin. Et puis, c'est intéressant parce que j'ai un fils dont le papa a d'autres origines que les miennes. Donc, il y a aussi une autre langue souterraine qui existe. Et puis, toute la question, c'est comment on lui transmet ces autres langues-là et voilà, comment lui a envie qu'on lui transmette aussi, parce que les enfants font leur choix aussi. Mais je crois que ce qui est très beau avec toutes ces histoires-là, c'est que c'est très vivant et qu'à aucun moment, c'est définitif. Je pense qu'il y a des gens... voilà, c'est comme pour plein d'héritages qu'on a. On décide ou on décide pas, mais enfin, c'est un mélange de ce qu'on décide de faire avec son héritage et puis ce qu'on arrive à faire avec son héritage. Et puis, c'est des jeux, c'est des questionnements, à mon sens, qui peuvent bouger jusqu'à la fin. Hein.
Ok, bah écoutez, merci à tous les trois et puis bonne continuation.
Merci. Merci à vous.
D'abord, ma bouche, ma fausse et compagnie. Je me suis dit, c'est louche, elle se change en ennemi. Maintenant, mes oreilles me jouent des tours aussi. Quand j'entends ma langue maternelle, il n'y a plus de mots, il n'y a que du bruit.
Sylvie, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce conte ?
Bah, c'était très très beau, très poétique, et puis le message est très fort sur la langue. Avoir deux langues, bah, ce n'est pas si facile que ça, laquelle choisir. Franchement, le message était très fort, et c'était exprimé par le chant, par la musique, la présence de la conteuse. Voilà, c'était ouais, une très belle prestation. Ouais, franchement, c'était très beau. Voilà.
Vous avez une seule langue, vous ?
Ah oui, moi j'en ai qu'une.
Vous connaissez des gens qui ont deux langues ?
Ah, très bonne question. Non, je n'en connais pas. Ah si, j'en connais, oui.
Et qui sont aussi à l'aise avec l'une qu'avec l'autre, ou pas ?
Oui. Ben, je connais des familles anglaises et donc qui ont les deux langues français et anglais, en fait, voilà. Ouais. Et puis oui, si j'ai des lecteurs qui ont deux langues et je les entends parler entre eux dans la famille et puis en français.
C'est une richesse en fait d'avoir deux langues.
Tout à fait. Ouais.
Et puis deux cultures éventuellement aussi.
Oui, oui, tout à fait.
Et vous avez appris d'autres langues vous ou pas, à part le français ?
Mais je suis en train de apprendre l'anglais.
Ah, très bien.
Voilà, je me suis mise à ça.
Ok, bah merci beaucoup.
Bah, je vous en prie.
La musique du mélange sourit, elle tend la main à ceux dont les oreilles ont oublié la peur, à ceux qui portent en eux il ici et l'ailleurs.
Anne-Laure pour RVM. J'étais à Tracy-le-Mont à l'occasion du festival Parole pour le conte de Daisy Bolter, Compagnie la matinale, Perdu ma langue. À bientôt sur RVM, la radio qui vous écoute.
L'oreille dans le coin.
Auditrice, auditeur,
à très vite sur l'antenne d'RVM.